explorer de nouveaux mondes étranges.
Je sentais souffler sur ma nuque le vent fou de l'aventure.
Eh bien moi j'y vais, je plonge.
Le temps d'un bivouac.
Une étrangeté familière, c'est ce qu'a ressenti Catherine Meurice alors qu'elle parcourait les paysages du Japon. L'autrice de bande dessinée s'était rendue dans l'archipel nippon avec en tête l'idée de peindre une nature qu'elle ne connaissait pas. Il s'agissait aussi pour elle de poursuivre la quête de beauté dans laquelle elle s'est lancée pour reprendre goût à la vie après l'attentat du 7 janvier 2015 qui a décimé la rédaction de Charlie Hebdo dans laquelle elle travaillait depuis 10 ans. Catherine Meurice avait raconté dans un précédent album intitulé « La légèreté » comment les semaines qu'elle avait passées à Rome à contempler les chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art et les beautés de la ville l'avaient aidée à surmonter le traumatisme et à reprendre pied. Après cela, c'est donc dans les beautés de la nature et de la culture japonaise qu'elle a choisi de s'immerger. Ses voyages à Kyoto, puis sur l'île d'Iki, lui ont inspiré un conte philosophique, poétique et drôle dans lequel la dessinatrice, ou en tout cas son double de papier, rencontre tour à tour un animal mythologique facétieux qui l'initie à la culture japonaise, un peintre en mal d'inspiration qui compose des poèmes à défaut de peindre et une femme mystérieusement liée aux éléments naturels. La bande dessinée s'intitule « La jeune femme et la mère ». Elle est récemment parue aux éditions d'Argo et elle nous donne l'occasion cet après-midi de partir avec Catherine Meurice en quête de beauté jusqu'au pays du soleil levant. Cette émission a été préparée par Claire Tesser, elle est réalisée par Stéphanie Texier avec à la technique Jean-Philippe Jaune. Et pour compléter la troupe, notre stagiaire de 3e, Maxime, soyez les bienvenus dans notre bivouac.
France Inter. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Et là, on est dans l'entrée du métro au pied de la villa Kujoyama. Je suis descendu à pied ce matin. La villa est dans la forêt. En juin dernier, sur le petit sentier qui monte à la villa, je suis tombé nez à nez avec un sanglier. Je les avais entendus toute l'année gratter dans la forêt juste devant ma chambre et je n'en avais encore jamais rencontré. C'était ma toute dernière soirée à Osaka. Osaka est à 40 minutes en train, donc on peut dîner en ville et rentrer le soir dans la forêt à Kyoto. J'ai poussé un cri très très fort et lui a été... On est resté une demi-seconde les yeux dans les yeux sur le petit sentier goudronné. Il est parti très vite.
Bonjour Catherine Meurice.
Bonjour.
À l'instant, nous entendions la voix de l'écrivain voyageur Antonin Potoski qui, comme vous, a séjourné dans la villa Kujoyama, une résidence d'artiste à Kyoto. Alors, il faut que vous nous aidiez à nous représenter un peu les choses parce que on est en ville, hein, à Kyoto, on entendait les bruits du métro et en même temps, il nous parle d'un sentier dans la forêt où l'on peut croiser des sangliers. Où se trouve-t-elle cette villa exactement ?
Elle se trouve à l'est de la ville, un petit peu en dehors de la ville, mais en effet, le métro est tout proche. Mais quand on sort du métro, on sent déjà les odeurs de la forêt. Et on prend un chemin qui monte, qui est très 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 pentu. Et là, on croise beaucoup de sangliers. J'en ai vu également, j'ai vu énormément de marcassins aussi. Ouais. On les entend gratouiller. Et on se retrouve dans un endroit verdoyant. Alors, il y a encore des maisons, il y a un petit quartier. C'est un quartier un peu planqué dans une forêt qui commence, quoi. Il y a un temple aussi, c'est un endroit absolument merveilleux, quoi, ouais. Où il y a beaucoup d'oiseaux.
Qu'étiez-vous venu chercher au Japon, Catherine Meurice ?
Plein de choses et j'étais aussi, je me suis dit que j'allais sans doute faire des découvertes, des choses que je n'attendais pas. Quand j'ai préparé mon dossier d'entrée à la villa Kujoyama, parce qu'il faut montrer patte blanche, ouais. Et on passe un concours pour y entrer, j'avais publié La Légèreté assez récemment et donc j'avais encore en tête cette quête de beauté qui, dans La Légèreté, était associée à un traumatisme que vous avez évoqué en introduction, donc l'attentat contre Charlie. Et pour moi, évoquer cette beauté dans La Légèreté, ça avait été une révélation. Pour la première fois, j'avais pris l'art au sérieux, en quelque sorte, qui m'avait permis donc de retrouver le goût à la vie. Je voulais un peu changer ma banque d'images mentale, ce que mon personnage dit dans la bande dessinée. Ouais. D'ailleurs, je voulais renouveler les images. C'est indispensable quand on est dessinateur. Il faut se rafraîchir un peu les idées et les images. Et je voulais voir ce que pouvait être l'expérience de la beauté, mais dissociée du traumatisme, éloignée du traumatisme. Ouais. Donc je suis allée au Japon comme ça, en me disant, voilà, on verra bien ce qui m'arrivera.
Et vous avez passé 4 mois hein, quand même à Kyoto, dans cette résidence d'artiste. Comment ça se passe très concrètement? C'est-à-dire que c'est un peu oisif, on s'autorise à la rêverie, ça ressemble à des grandes vacances, ou au contraire, on a une pression parce qu'on se doit d'être créatif, productif?
Non, c'est une résidence de recherche, mais on peut être très 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 créatif dès le premier jour. En ce qui me concerne, j'étais pleine de doutes, pleine de questions, et le métier d'auteur, d'autrice de bande dessinée, c'était un métier solitaire, et c'était l'endroit idéal pour voilà, choisir une solitude, donc choisir la rêverie. Et je me suis beaucoup baladée, j'ai quadrillé Kyoto à pied, à vélo, je suis allée aussi dans Kyushu, et tout ça pour emmagasiner, pour préparer quelque chose. Je ne savais pas du tout que ça donnerait 3 ans plus tard La jeune femme et la mère, mais j'avais besoin de ce voyage pour emmagasiner des images, des émotions, des odeurs, tout ce qui peut faire le terreau d'une bande dessinée.
Vous avez ce tempérament d'exploratrice, de voyageuse?
Je ne crois pas être une grande voyageuse, parce que je suis très peureuse. Je suis très anxieuse, mais je crois que je suis devenue voyageuse sur le tard. Ouais. On l'évoquait tout à l'heure, le voyage à Rome, à la Villa Médicis, ça a été tellement extraordinaire que j'ai décidé de ne plus avoir peur de voyager. Donc voilà.
Oui, salvateur ce voyage. D'ailleurs, c'est ce que vous racontez hein, dans La Légèreté. Donc, vous étiez depuis 10 ans dessinatrice à Charlie Hebdo. L'attentat survient. Le 7 janvier, vous y échappez parce que vous arrivez en retard à la conférence de rédaction. Évidemment, le traumatisme est immense. Et tout de suite, votre réflexe, en tout cas, à en croire la Légèreté, c'est d'imaginer une évasion géographique. Parce que dans les jours qui ont suivi, vous allez vous réfugier sur une île. Alors, vous ne dites pas laquelle, mais j'imaginais une île bretonne. Je ne sais pas si c'est ça.
C'est ça.
Ensuite, vous allez sur les traces de Proust à Cabourg. Vous allez sur votre maison d'enfance. Vous dites peut-être aussi qu'il y a du réconfort à aller chercher là. Et puis finalement, le déclic, c'est sur la dune du Pila. Vous marchez sur cette dune. Et là, vous avez un choc, semble-t-il.
Oui, une expérience assez incroyable face au paysage. Mais ce que je veux dire, c'est que cette réflexion sur la géographie, ça a été complètement inconscient, parce que après l'attentat, j'étais absolument incapable, comme mes copains et copines survivants, j'étais incapable de me déplacer, incapable de manger, de réfléchir, de penser, de lire. Donc j'étais assistée. Donc mes amis et ma famille m'ont accompagné en fait, m'ont aidé à sortir un petit peu de Paris ensanglanté. Et la dune du Pila, c'est cela en fait. C'était quelques semaines donc après l'attentat, mais des amis. Alors il se trouve que ces amis, c'est ma coloriste Isabelle Merlet et son mari Jean-Jacques
Couget, qui a mis les couleurs sur la BD au Japon, et les couleurs sont superbes. On aura l'occasion d'y revenir.
Oui, elle a mis aussi en couleur Les Grands Espaces, une BD précédente. Mais donc voilà, et cette amie. Ses amis sont, quand on regarde la couverture de la Légèreté, on voit mon petit personnage, enfin c'est moi, qui regarde ses pieds, qui gravit la dune péniblement. Et hors champ, derrière, il y a Isabelle Merlet et son mari. Et en effet, à cette époque, j'étais complètement ce que les psys appelaient la dissociation. J'étais en état dissociation, donc complètement à côté de moi-même. Et je crois qu'à ce moment-là, seule la perception était là, en fait. Il ne restait plus que ça. Donc, en haut de la dune du Pila, j'ai eu une expérience presque, une sorte de transcendance où je me voyais dans les vagues, dans l'océan, dans le ciel, dans les nuages, dans la mer. Et c'était extrêmement troublant, complètement inédit. Je n'ai pas du tout intellectualisé cette expérience d'abord, parce que j'étais complètement à côté de la plaque. Mais plusieurs mois après, j'ai décidé d'inscrire ça quelque part. En tout cas, je n'ai pas voulu voyager après Charlie. C'était impossible. Il y avait à la fois un besoin de fuite et le besoin de rester auprès de mes amis disparus, mes amis qui me soutenaient. Enfin, c'était très très compliqué. Ouais. Et donc, dans La Légèreté, puis bien bien plus tard, dans La Jeune Femme et la Mer, bien sûr, je sublime les choses. Mais il y a en effet cette idée que le voyage peut vous redonner le goût à la vie. Ouais.
Et c'est ce qui s'est passé ensuite à Rome. Hein. Vous avez décidé de vous rendre dans cette Villa Médicis, une autre résidence d'artiste très connue. Elle vous a accueilli. Alors d'ailleurs, vous avez écrit une lettre de motivation enflammée pour être reçue dans cette
ville. Très lyrique. J'exagère à peine dans la légèreté quand je me dessine, voilà, avec le vent dans les cheveux, encore ce vent là avec la plume, une plume d'oie, et où je dis que je dois aller à Rome, c'est une question de vie ou de mort. Je ne l'ai pas rédigé comme ça. Il a fallu que je fasse vraiment une lettre au directeur pour pouvoir résider quelques semaines à la villa. Mais dans ma tête, au fond de moi, c'était une question de vie ou de mort, vraiment. C'était très très sérieux. Et heureusement, j'ai été acceptée et j'y suis allée en novembre 2015 et décembre 2015, donc peu de temps après un autre attentat absolument abominable à Paris. Et là, déjà la couleur du ciel, ce rose, je pourrais jamais oublier le rose de Rome quand je suis arrivée en fin novembre en fait.
Allons y faire un tour justement sur cette villa Médicis à Rome, sur son balcon avec le scénographe, peintre et designer Richard Peduzzi, que la vue sur Rome depuis la villa ne laisse pas indifférent.
La vue qu'on aperçoit, tout ce qu'on aperçoit depuis cette villa, depuis ses fenêtres, c'est trop fort pour être quotidien. Je veux dire, ça enlève le quotidien. D'abord parce que la lumière, à chaque instant, est différente. Et chaque jour, elle est différente de la lumière du jour d'avant. Et puis, il y a aussi des vols des tourneaux qui sont comme des cerfs-volants, qui font des arabesques. Il y a des nuages qui semblent s'écraser comme ça sur les architectures. Il y a toutes les coupoles. Et surplombant tout ça, il y a le Vatican. C'est-à-dire, on a absolument toutes les enfilades et les perspectives de la ville éternelle. Et si je dis la ville éternelle, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on est quand même sans arrêt ici en une sorte de discussion avec l'éternité en permanence. C'est vraiment une impression très étrange de Rome, de comprendre qu'on est vraiment de passage. Parfois c'est très anxiogène, parfois tu te dis, oh là là, les murs sont là, rien ne bouge, et toi tu t'envoles, quoi, comme ça. C'est quelque chose de tellement provisoire, tu sens que... Et c'est à ce moment-là parfois que naissent des choses nouvelles, que tu te raccroches à des moments et que tu fais quelque chose de tes journées avec ça.
Richard Peduzzi, en 2008 sur France Culture, à Rome, Catherine Meurice, vous avez éprouvé ce sentiment qu'il décrit ?
Ah oui, complètement. Et c'est drôle parce que ce qu'il dit, cette ville éternelle, en fait, c'est le paysage éternel. Les nuées des tourneaux, la lumière, c'est ce que disait Stendhal dans ses écrits. Ouais. C'est ce que dit Peduzzi il y a plus de 10 ans. C'est ce que je pourrais dire aujourd'hui. C'est ce que les pensionnaires de la villa diront demain. C'est un paysage immuable, éternel, immuable et vivant. C'est ça qui est merveilleux. Et c'est vrai que contempler les ruines de Rome, contempler ce passé, en fait, ça fait de vous quelqu'un d'aujourd'hui. En fait, c'est ça qui est, ça vous rend vivant. Ça fait vraiment couler ça fait bouillir vos veines, quoi. C'est assez miraculeux.
Vous y alliez pour éprouver ce fameux syndrome de Stendhal, le choc, l'évanouissement devant la beauté des sculptures, des peintures, de l'art. Est-ce que ça s'est produit ?
Ça ne s'est pas produit, comme je le raconte dans la légèreté. C'est vrai que je cherchais un choc qui puisse annuler le choc du 7 janvier 2015. Alors je cherchais un choc esthétique, donc le syndrome de Stendhal, qui consiste à s'évanouir devant la beauté. Puis en fin de compte, je me suis rendu compte que je ne m'étais pas du tout évanouie, mais au contraire, j'étais restée éveillée devant toute cette beauté, parce que en fait, l'évanouissement, il a eu lieu en 2015, et qu'après, il s'agissait de se réveiller ou de renaître même complètement, et je l'ai fait au contact des œuvres et des paysages et de la ville et de la nature aussi que j'ai fréquenté à Rome, quoi. C'est ça qui était très beau. Donc non, ce syndrome de Stendhal, je ne l'ai pas vécu, mais tant mieux. Et comme je le dis dans la légèreté, je me souviens que j'ai vu avec des yeux immenses. J'ai tout enregistré et ça, je ne peux pas l'oublier, ouais, ce que j'ai vu.
Et vous avez donc voulu poursuivre votre quête de beauté en allant vous plonger dans la nature et la culture japonaise. Vous allez nous raconter cette immersion qui vous a inspiré votre dernière bande dessinée, La jeune femme et la mer. Catherine Meurice nous emmène bivouaquer au pays du soleil levant cet après-midi sur France Inter.
Everybody falling in love with some sweet summer.
C'était Donut Mind If I Do, chanté par Chai. Les chanteuses sont de Nagoya.
Un jour, au cours de ma promenade dans la forêt, je me suis sentie si bien que je suis allée plus loin que d'habitude et me suis assise au milieu des arbres. J'ai levé les yeux pour regarder les scintillements du soleil entre les feuilles. Puis j'ai senti une petite brise. Et j'ai eu l'impression qu'ils étaient tous venus m'accueillir, qu'ils étaient contents que je sois là. J'ai éprouvé cette sensation de tout mon corps et les larmes ont coulé toutes seules. Je me suis dit, oui, je suis vivante. Quelle joie! Des petites choses, mais quel moment de grâce. Ah,
watashi wa ikiteiru. Sono kanki. Sono koto dake de nante utsukushii no daro.
Et comme cette forêt majestueuse de m'apprendre tout cela. Je vous exprimais cette sensation. Je veux la faire exister dans l'univers du cinéma.
La réalisatrice japonaise Naomi Kawase, qui veut transmettre les émotions ressenties dans la nature avec ses films. Vous, Catherine Meurice, c'est par la bande dessinée hein, que vous nous faites découvrir cette nature japonaise dans votre dernier album « La jeune femme et la mer » aux éditions d'Argo. Ce lien très fort, hein, on l'entend, elle fond en larmes en évoquant la forêt, Naomi Kawase. Il est représentatif du rapport que les Japonais entretiennent avec la nature, selon vous, Catherine Meurice ?
Oui, il me semble, c'est très émouvant de l'entendre, Naomi Kawase, elle est bouleversante, j'aime beaucoup ses films par ailleurs. En effet, les Japonais ont cette relation à la nature, mais ils rendent visite aux arbres, etc. Mais ils rendent visite aussi aux divinités qui sont dans les arbres. Donc je ne connais pas assez la culture ou même la religion, le culte japonais pour pouvoir en parler, mais c'est vrai que de voir des touristes qui viennent rendre visite aux arbres, ça c'est quand même quelque chose d'assez touchant. Et rendre compte de cette émotion dans une forêt, etc., c'est vrai que j'essaie de traduire ça à ma façon, alors avec quelques gags à la clé, hein,
oui.
On ne se refait pas, mais oui. J'essaie de raconter cela, de rendre compte de cela dans La jeune femme et la mer. Ouais. Oui.
Ce lien à la nature, il vous parle, hein, parce que dans les grands espaces, hein, cette précédente bande dessinée, vous racontiez ce rêve que vous avez, avoir une porte dans votre appartement parisien qui ouvrirait directement sur les prés, les champs de tournesol, pour s'évader dans cette campagne de votre enfance.
Oui, c'est ça. Et au Japon, finalement, j'ai trouvé aussi une porte, parce que dans les premières pages de La jeune femme et la mer, mon personnage, qui me ressemble énormément, hein, suit un tanuki, ouais. Comme Alice au Pays des Merveilles, suit ouais. Le lapin blanc, et il s'agit d'une traversée du miroir. Je m'enfonce dans la forêt, et le merveilleux advient, et l'histoire commence. Et ça aussi, c'est une porte ouverte directement sur la forêt. Et il se trouve que la villa Kujoyama, on parlait de sa situation géographique tout à l'heure, elle permet cela. Il suffit de faire quelques pas pour être dans la montagne, dans la forêt. On s'éloigne des maisons, s'éloigne des temples. Et très vite, on croise des sangliers, bien sûr, et des tanuki. J'ai vraiment vu un tanuki. Je me suis inspirée de ce que j'ai vu réellement.
Ah oui, mais je croyais que c'était un animal imaginaire, ce
tanuki. Non, c'est un. Enfin, bien sûr, il est connu dans la mythologie japonaise, mais c'est un chien vivrain. C'est une sorte de gros raton qu'on aperçoit de temps en temps. Et j'en ai vu un petit qui m'a rendu visite devant ma table à dessin. Mmh. J'ai essayé de le suivre. J'ai pas réussi vraiment dans la réalité, il s'est perdu dans les bois, mais avec la bande dessinée, on peut tout faire. Ouais. Donc...
Ce lien avec la campagne, évidemment, il remonte à l'enfance. Quand vous aviez 7 ans, vos parents décident de déménager à la campagne et votre mère vous dit « la campagne sera votre chance ». Et ça l'a été.
Oui, ça l'a été. Oui. Ce contact avec la nature, avec les animaux de la ferme, les animaux domestiques, mais aussi les animaux sauvages, hein, les chevreuils, les lièvres, etc., les chouettes hulottes, les chouettes effraies. Oui, c'était assez formidable parce que ça nous éveille, je dis nous, parce que j'ai une grande sœur, et on a vécu cette enfance comme ça, assez heureuse à la campagne. Et je me demande si, enfin, en tout cas, je le raconte dans les grands espaces, je fais l'hypothèse que ça a vraiment aidé, ça m'a donné un coup de pouce pour devenir la dessinatrice, pour devenir dessinatrice. En tout cas, c'est-à-dire que mon regard s'est affirmé, affûté peut-être au contact de la nature qui est la nature, c'est une force créatrice, tout se renouvelle, donc c'est très très inspirant.
Et puis vous avez appris 1000 choses, hein, quand le cognassier bourgeonne, c'est qu'il est temps de planter les pommes de terre, par exemple, quand les personnages fleurissent, c'est signe qu'il faut planter les oignons.
Ça
vous l'avez appris avec votre père en cultivant la terre.
Oui, mes parents sont jardiniers, mais comme beaucoup de gens qui connaissent bien la campagne, qui ont grandi à la campagne, ils ont vécu la campagne quand ils étaient gamins.
Et la campagne japonaise vous a-t-elle rappelé celle de votre enfance ?
Étonnamment, oui. Il y a eu un moment, tout au sud de l'archipel, à Ibusuki, pour être précise, une petite station de balnéaire au sud du Kyushu. Et alors que j'étais dans un paysage qu'on pourrait qualifier d'exotique, où les cerisiers en fleurs, qu'on connaît bien, il y en a aussi dans mon Poitou natal, et en France, côtoient les palmiers, etc. Bon, il y avait quand même beaucoup de choses. Il y a des arbres entiers de glycines dans la forêt, il y a des buissons de camélias, bon, beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Et puis, bien sûr, des maisons, une architecture, des cabanes de pêcheurs, tout ça était très, très exotique. Et à la faveur d'un parfum, je ne sais pas ce que c'était, je n'ai pas réussi à identifier cette odeur, mais soudain le Poitou, soudain ce petit coin de France a surgi. Ça a duré quelques secondes, mais c'était vraiment un moment proustien. C'est comme si j'avais croqué dans la Madeleine. Et c'était tellement invraisemblable, c'était bouleversant. J'en ai presque pleuré comme Naomi Kawase qu'on entendait tout à l'heure pleurer au contact de la forêt. C'était tellement étonnant que je l'ai inscrit dans un coin de ma tête et plus tard j'en ai fait une des séquences de La jeune femme et la mère. Et tout ça pour dire que bien sûr quand on voyage on part avec soi évidemment, avec ses bagages et on peut aller très très loin et pour autant il y a cette étrangeté familière dont parle Lévi-Strauss bien sûr, c'est pas moi qui ai inventé cette belle expression mais... Au Japon, tout est très différent de nous et en même temps, on s'y retrouve. Il y a quelque chose de l'ordre de la symétrie. On se retrouve de manière inversée. C'est à la fois perturbant et extrêmement réconfortant. Quelque chose qui fait qu'on se retrouve. Oui.
Vous avez trouvé un réconfort dans cette nature japonaise. Pourtant, elle a aussi un aspect inquiétant, cette nature japonaise. Le lien entre les Japonais et la nature, à un moment, l'un des personnages vous le dit, il est compliqué, il est tumultueux. Elle peut être émouvante, nourricière, cette nature. Elle peut être aussi destructrice.
Oui, et quand on visite le Japon, et notamment dans les campagnes, ce qu'on peut apercevoir, c'est des pictogrammes, des pancartes, des petits panneaux, des signes partout qui vous indiquent que le refuge en cas de tsunami est à quelques mètres, à 8 mètres, à 12 mètres, à 16 mètres, que telle route est une voie de secours en cas de séisme, que il ne faut pas aller plus loin là-bas parce qu'il y a un volcan qui fume, qui gronde. Et donc partout, on vous rappelle que vous êtes sur une terre qui tremble, que la nature est là et qu'elle se manifeste de temps en temps. Donc ça, c'était aussi assez impressionnant et en même temps, une fois de plus, très rassurant dans le sens où ça c'est une nature qui nous dit qu'elle est là et qu'elle nous dépasse. Et à la fois, ça nous fait prendre conscience qu'on est fini, qu'on nous sommes des êtres finis. Et en même temps, ça nous prolonge. Il y a quelque chose de l'ordre du paradoxe qui est là aussi, qui nous rend vivants. Quoi. Ouais.
Alors, il y a ceux qui essayent quand même, au Japon, de lutter contre les dégâts qui peuvent survenir dans la nature. Hein. On voit des structures en béton pour éviter les coulées de boue et les glissements de terrain. Vous voyez aussi des murs anti-tsunami construits sur la plage. Votre personnage y est confronté. Mais tous les Japonais ne sont pas favorables à l'installation de ces murs anti-tsunami, à l'image de ce pêcheur japonais dont la famille a été décimée par un tsunami, mais qui s'oppose à la construction d'un mur anti-tsunami pour protéger son village.
J'ai perdu 3 personnes dans le tsunami, ma mère, ma femme et mon petit-fils. Depuis, je suis tout seul. Ça fait déjà 8 ans. Je n'en peux plus. Le Japon est une île et les pêcheurs qui habitent sur la côte vivent grâce aux richesses de l'océan. Ils nous apportent énormément de bienfaits et malgré les dégâts de la catastrophe, personne ne peut haïr la mer. Si un nouveau tsunami se produisait, nous serions prêts à en affronter les risques. Les pêcheurs qui vivent sur une île ont ça en tête.
Extrait du documentaire La Grande Muraille du Japon. Catherine Meurice, vous avez été confrontée à cette forme d'acceptation, de fatalisme des Japonais face aux catastrophes naturelles.
Oui, parce que j'ai fait un autre séjour après mon séjour à la résidence, à la villa Kujuyama, un an après, dans le sud du Japon, dans le Kyushu, sur l'île d'Iki. Et j'y suis allée en octobre 2019, au moment où le typhon Hajibi est passé sur le pays, a dévasté surtout la partie est du pays. Et je me souviens, le typhon était annoncé un samedi. Voilà, je m'en souviens très très bien. Et alors, bien sûr, dans le sud de l'archipel, on était moins confrontés. Enfin, on n'était pas vraiment sur le passage, mais de ce super typhon. Mais j'ai quand même vu ce que c'était qu'un pays à l'arrêt, complètement à l'arrêt. Bateau arrêté, avion cloué au sol, train arrêté, etc. Et puis des messages dans les haut-parleurs, même dans les campagnes, qui vous disent, qui vous tiennent au courant en fait de la situation. Et j'ai senti le vent se lever, la mer devenir houleuse, et mes amis japonais qui m'accompagnaient, bien sûr, me disaient très calmement, c'est comme ça. Et ça m'a beaucoup marqué, ça a vraiment, ça se retrouve dans ma bande dessinée, oui. La jeune femme et la mer, complètement. Oui, ouais. Je me suis inspirée de cet épisode-là. Et il y a un typhon qui est en train d'arriver, qu'on ne voit pas dans La jeune femme et la mer. Le vent se lève dans les dernières pages, mais on sent cette tension, cette menace dans tout l'album. Et je voulais que mes personnages, voilà, discutent d'art, de nature, etc. Et qu'il y ait une tension, voilà, quelque chose qui va arriver. Qu'est-ce qu'on fait? Quand ça va arriver, ouais. Comment est-ce qu'on peut préserver les paysages qui vont sans doute disparaître après le passage, ouais, du typhon?
Au fond, la précédente bande dessinée, La légèreté, a été écrite après la catastrophe, cet attentat à Charlie. Là, cette fois-ci, vous écrivez avant la catastrophe.
J'ai écrit, et je me demande ce que je peux dessiner ou peindre. La légèreté, c'était que puis-je peindre après cette catastrophe abominable. Et là, dans La jeune femme et la mer, c'est qu'est-ce que je peux, ou qu'est-ce que mon personnage peut peindre avant une catastrophe, un cataclysme naturel. Alors j'ai deux hypothèses, j'ai deux propositions, on fait ce qu'on peut. La première, c'est la peinture, parce que donc il y a un personnage de peintre qui se balade dans la bande dessinée, qui n'arrive pas à peindre, qui fait des haïkus, mais il arrivera bien sûr à la fin, je dévoile un tout petit peu, hein, il arrivera quand même à peindre à la fin du livre, et cette peinture permet d'immortaliser les visages, les êtres, les paysages. Puis l'autre hypothèse, c'est l'herbier. Mon héroïne se balade, pareil, avec un carnet de croquis, elle veut peindre la nature, en fait elle ne peint pas, elle remplit sans s'en rendre compte, elle constitue un herbier. Et cet herbier, eh bien, il contient tout le paysage vécu, observé, parce que j'avais lu par ailleurs que, à partir d'un herbier du 18e siècle, du 19e, on pouvait recréer des plantes parce que les herbes, même séchées, contiennent encore de l'ADN. Je me suis dit, tiens, voilà, une solution en cas de catastrophe, peut-être qu'on peut reconstruire les choses comme ça.
On va poursuivre avec vous, Catherine Meurice, nos déambulations dans ce Japon entre peinture, herbier et poésie japonaise. Vous écoutez Le temps d'un bivouac sur France Inter.
Ce que je dis se perd dans le silence, dans les espaces et le flou. Nos cœurs se sont trouvés dans les absences ou dans la gueule du loup. Tous les soirs de fin d'été, les étoiles se jouent de nous. Compter sans bruit les choses que l'on laisse pour ne pas devenir fou. Mes yeux sont des remparts qui te blessent. Je ne veux plus rien voir du tout. Tous les soirs de fin d'été, les étoiles se jouent de nous. Oh, elles se jouent de nous.
C'était Auclou et Pomme qui chantaient Galore.
Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé. Sur France Inter.
Oh. L'eau vient du lac Biwako qui se situe à quelques kilomètres d'ici, sur les hauteurs. Dans les jardins japonais, il y a presque toujours un ruisseau. L'eau de la rivière doit refléter la lumière. C'est incontournable. C'est pour cela qu'il nous faut une eau de ruisseau nettoyée, limpide. Murinan est un jardin naturaliste. À l'arrière-plan, on peut voir la montagne Higashiyama. D'une certaine manière, elle fait partie du jardin. Pour qu'elle soit bien mise en valeur, on taille les arbres à une certaine hauteur. Comme ça, on ne voit pas les bâtiments qui entourent le jardin et on a l'impression qu'on est au milieu de la nature.
Nous étions dans le jardin Murinan à Kyoto avec son chef jardinier Kenta Deguchi. Le jardin est agencé pour faire comme un trait d'union avec la nature qui entoure la ville. Vous l'avez visité, Catherine Meurice, ce jardin ?
Oui, plusieurs fois. Et en effet, c'est très étonnant parce qu'on oublie la ville quand on y est. Ils se sont débrouillés de manière à ce qu'on ne puisse pas voir les toits de la ville. Pourtant, on est vraiment dans Kyoto.
Oui. Ouais. Alors, vous qui vous intéressiez dès toute petite à la différence entre un jardin à la française, très symétrique, et le jardin à l'anglaise, un jardin paysager, hein, vous en parliez dans les grands espaces. Qu'avez-vous pensé de ces jardins japonais ?
Finalement, le point commun entre ces jardins, c'est la maîtrise. Parce que c'est vrai que petite, j'étais fascinée par ces, vous savez, ces tableaux qu'on peut voir, que j'avais vu au Louvre d'ailleurs, qui représentent les jardins, des vues aériennes des jardins de Versailles, de Volvicomte. J'étais fascinée par ces grands rectangles verts. Et au Japon, on retrouve cette maîtrise du paysage parce que tous les arbres sont taillés, puis même on peut aller dans des maisons de thé, etc. Mais les fenêtres sont taillées de telle sorte qu'on voit le jardin comme un tableau. C'est très très beau et c'est très inspirant pour une dessinatrice. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, ça me rappelle une phrase que j'ai mise dans La jeune femme et la mer, que j'ai empruntée à Natsume Soseki, un écrivain, qui est que quand on pénètre dans ce territoire, c'est le personnage du peintre qui dit ça, quand je pénètre dans ce territoire, ça pourrait être dans un jardin, sans même que je peigne un tableau, je suis un grand peintre. Rien que de fait de vous voir déjà ce tableau, le tableau est fait en quelque sorte et je suis un peintre de premier ordre. Ouais. Donc c'est du pain béni pour une dessinatrice.
Ouais. L'écrivain voyageur Nicolas Bouvier a séjourné 4 ans au Japon. Le voici évoquant ce que ce pays lui a appris.
Je pense que la plus grande leçon du Japon, c'est une leçon de moins. C'est une sorte de sobriété. C'est une leçon de rien. Parce que ce qui est admirable au Japon, ce sont des réussites faites avec peu de choses. Dans la poésie, c'est le haïku, qui est la forme poétique la plus brève qu'on connaisse. Dans la cuisine, ce sont de petits morceaux de poisson cru disposés sur une grande assiette de porcelaine blanche, avec peut-être une tige d'oignon dessus. C'est cette manière de faire avec peu. Et ça, je crois que c'est une excellente leçon qu'on retrouve d'ailleurs dans l'architecture d'intérieur japonaise. Moi, j'ai toujours vécu à la japonaise, c'est-à-dire dans des chambres où il n'y avait pratiquement rien. Vous avez les jardins de pierre zen, on ne peut pas faire plus simple et en même temps, on ne peut pas faire plus élaboré.
L'écrivain Nicolas Bouvier, Catherine Meurice, vous avez aussi eu cette impression de recevoir une leçon de moins au Japon ?
Oui, oui, oui. Et c'est très bénéfique. Oui, oui, oui. C'est en fait, je crois que c'est le zen, hein, c'est-à-dire quitter le soi pour aller vers le domaine du rien. Mais c'est un rien qui n'est pas vide, évidemment. C'est un rien où tout communique. Et bien sûr, on ne peut que ressentir cela en allant au Japon. Et c'est tellement différent de la culture occidentale. C'est cette différence qui fait tellement de bien.
Cette idée de faire simple et élaboré à la fois, d'atteindre l'épure, on la retrouve aussi dans le haïku, ces petits poèmes très structurés de 17 syllabes où il n'y en a pas une de trop, finalement.
Oui, 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 j'en parle avec humour dans La jeune femme et la mer, parce que le haïku, bien sûr, tout le monde croit qu'on peut en faire, c'est facile, en fait pas du tout, c'est très très élaboré, c'est très... Et dans ma bande dessinée, oui, le peintre n'arrive pas à peindre, il se casse la figure à chaque fois qu'il a un choc d'inspiration, et il sort, il pond des haïkus. Ouais. Et c'est à chaque fois un voyage, en fait. En quelques mots, c'est une réflexion, c'est une méditation, c'est une leçon de philosophie et d'humilité.
Cette recherche de l'épure, elle est aussi présente dans la peinture japonaise ?
Oui, bien sûr, la perspective n'est pas la même, les volumes ne sont pas les mêmes. Et oui, oui, la peinture, les estampes, bien sûr, m'ont beaucoup inspiré. Et puis aussi certains auteurs de manga des années 50, 60, Mizuki, Tsugi, où là aussi, il y a encore un paradoxe, un peu comme dans ce pays où on parlait de la nature et du béton. Dans les mangas japonais qui m'ont inspiré, il y a à la fois des personnages, je pense à Mizuki notamment, des personnages très caricaturaux, très simples, donc en trois coups de crayon, c'est fait. Et puis derrière eux, il y a un décor extrêmement fouillé, extrêmement presque du dessin photographique, mais pas du tout lourd. Hein. Au contraire, ce contraste crée de la vie, une fois de plus. Donc c'est une leçon du moins. Ouais.
Puis il y a un autre tableau qui vous a inspiré. C'est l'un des tableaux japonais les plus connus, La Grande Vague du peintre Hokusai. Il en est question hein, dans votre bande dessinée. Une japonaise vous dit, c'est un peu notre Joconde à nous, cette Grande Vague. Qu'est-ce qui fait selon vous que ce tableau a eu un tel succès au-delà du Japon?
C'est sûr qu'elle a un point commun avec la Joconde. Il y a quelque chose de mystérieux dans cette vague, une composition assez simple en apparence, bien sûr. Hein, rien n'est jamais simple. Et l'autre point commun avec la Joconde, c'est qu'on croit la connaître par cœur, la vague. Ouais. Et en fait, on ne la regarde jamais assez bien.
Alors, décrivez peut-être ce tableau, mais en lisant votre bande dessinée, j'ai découvert des détails que je n'avais jamais remarqués sur ce tableau. Mais décrivez-le pour ceux qui ne l'ont plus complètement en tête.
Alors, la vague de Kusai, les couleurs, on est plutôt dans les bleus, l'écume est blanche, mais c'est une dominante de bleu. On a une énorme vague qui est courbée, qui va vers la droite, en fait, qui prend toute la place de l'image. Et on distingue au fond le mont Fuji, tout au fond. Et au creux de cette lame gigantesque, ce qu'on voit pas tout de suite, en effet, ce sont des petites barques sur lesquelles il y a des petits points, des petits ronds minuscules. En fait, ce sont des pêcheurs qui sont, on dirait, recroquevillés. Ils sont extrêmement stylisés. C'est assez miraculeux. Mais Hokusai est vraiment un génie. C'est lui qui a inventé la caricature. C'est lui qui a inventé Charlie Hebdo, je crois.
Ah, voilà, on comprend votre intérêt. Voilà.
Et en effet, on voit donc ces personnages sur la barque qui sont recroquevillés, qui attendent le moment ou qui redoutent, en tout cas ils vont se prendre ce mur d'eau. Et ça m'a inspiré un personnage, le personnage de Nami dans La Jeune Femme et la Mer, que j'ai imaginé et bien sûr une de ses barques. En fait, c'est une des révélations de l'album. Je l'ai dit.
Voilà, n'en dites pas trop. Votre intérêt pour la façon dont les peintres représentent la nature ne date pas d'hier. Hein. Déjà petite, il y a ce déclic. Alors que vous étiez déjà très intéressé par la nature autour de la maison, il y a une sortie familiale au Louvre. Et là, vous vous rendez compte, devant les tableaux de grands maîtres, que la façon dont ils ont représenté la nature vous émeut presque plus que le spectacle de la nature lui-même, Catherine Meurice.
Et je crois que la peinture, c'est un supplément d'âme, un supplément de vie. Et c'est vrai que j'ai eu besoin, c'était complètement inconscient, hein, mais j'ai eu besoin à la fois, et j'ai encore besoin à la fois, de voir la nature réelle que j'ai vue gamine, et j'ai eu besoin de la voir représentée par des artistes. J'ai eu besoin de la voir, vue par le regard des autres. Hein. Je pense à la phrase de Proust qui dit que le plus beau des voyages, c'est pas d'aller vers d'autres paysages, c'est de voir les choses à travers les yeux des artistes. Je le dis très mal, mais c'est un peu ça que dit Proust. Et j'ai ressenti ce besoin assez tôt, oui, de voir la nature au carré, en fait, en vrai, et représentée. D'avoir de vrais paysages et des paysages imaginaires. Et ça se retrouve encore aujourd'hui dans mes livres. J'ai besoin non seulement d'observer cette nature, d'aller la voir dans les musées. Par ailleurs, c'est très difficile à peindre et à dessiner la nature. Encore aujourd'hui, à chaque fois que je dois dessiner un arbre, je me prends la tête pour dire comment je dessine les feuilles. L'écorce, ça, je sais à peu près, mais le feuillage, comment faire? Donc, je vais regarder coraux, fragonards, etc. Ouais. Et j'ai besoin de ça, de cette observation-là, oui.
Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé sur France Inter. Another day, another coffee, and the years go by.
staring me down. She knows my days are numbered and she wrote the number down. Always had it for me, so get it here soon. Man, we're gonna dance, just look at her move, watch her move. Says I like it like that. Oh, she does. Steam engines are rolling down the track.
C'était Hills qui chantait Steam Engine et la programmation musicale du temps d'un bivouac est signée Valentine Chédebois.
J'ai été élevée par ma grand-mère qui était bouddhiste et animiste shintoïste. Et elle me disait toujours, il y a les divinités partout. Ça c'est une idée complètement animiste. Et ça c'est l'atmosphère qui existe toujours dans la culture japonaise. Pour les Japonais, il n'y a pas de distance entre les animaux et les êtres humains, et les plantes et les êtres humains. Il y a des Japonais qui parlent aux plantes, qui parlent aux animaux. Moi aussi, je parle souvent aux pommes. Quand j'ai fait tomber une pomme, je dis pardon.
La journaliste japonaise Noriko Aniu, elle converse avec la nature, avec les pommes. Catherine Meurice, vous aussi, vous vous êtes mise à dialoguer avec la nature lors de votre périple au Japon.
Oui, je dialogue intérieurement, c'est-à-dire que je dialogue de manière complètement profane. C'est-à-dire, pour moi, il n'y a pas de Dieu au pluriel, mais bien sûr, une pomme, un tanuki mérite le respect. On peut bien sûr dialoguer avec eux. On est au même niveau, quoi. Ouais. Ouais.
Alors, ce tanuki, hein, c'est ce personnage mythologique qui existe. Hein, vous nous l'avez dit, une sorte de raton laveur, un animal légendaire au Japon, un esprit de la forêt. Il vous initie à la culture japonaise. Alors, il est très facétieux, un petit peu grivois. Ça, je ne sais pas si dans la mythologie, il est grivois.
Si, il est, oui. Ah oui. Il est assez grossier.
Ouais. C'est pour ça qu'il vous a plu.
Exactement, oui, ça permet de mettre un petit peu d'humour et de burlesque dans cette réflexion sur la beauté.
Oui, c'est ça. Mais alors, il a à la fois, il vous charrie, il vous bouscule un peu, il vous initie aussi à la calligraphie. Vous me dites, je ne comprends rien, mais j'aime beaucoup ce qu'il me dit. Vous êtes sensible, vous, la graphiste, à ces calligraphies japonaises?
Oui, je suis sensible. Je lui dis, je ne comprends rien, mais peut-être que je peux ressentir. Ouais. Et tout l'album va reposer là-dessus, sur les sensations. Oui, bien sûr, l'art de la calligraphie me fascine. Alors, j'en ai fait un petit peu à Kyoto, lors de ma résidence. C'est très difficile. On doit tenir son pinceau bien droit, alors que moi, je le prends comme une sauvage quand je fais mes aquarelles et ma peinture, avec ma main gauche, là. C'est Hiroshi Ueta, que j'avais vu, un très bon calligraphe de Kyoto qui m'avait initié, et je me suis souvenue de cette séance dans son atelier. Alors c'est vraiment très très beau parce qu'il y a énormément de pierres à encre de tailles différentes, en céramique, et elles ont toute une histoire, elles sont sculptées, les pinceaux bien sûr. Enfin, il y a tout un rituel, voilà, que je raconte très brièvement dans la bande dessinée parce que s'il faudrait faire un livre entier là-dessus. Et voilà, je m'inspire de ce moment et c'est en effet le tanuki qui fait écrire quelques mots japonais à mon personnage. On découvre à la fin de l'album ce qu'elle a écrit.
Alors le tanuki, il vous plonge aussi dans des réflexions philosophiques. Lors de vos déambulations dans la nature, à un moment, vous passez près d'un château, le château de Kumamoto, et vous vous interrogez face à la nature destructrice. Comment faut-il reconstruire ce château qui a été endommagé? Certains disent en bois, tel qu'il était, et c'est la façon de l'installer dans le temps, le reconstruisant à chaque fois. D'autres disent qu'il faut le construire en pierre pour qu'il soit plus solide. Il y a toute une réflexion là-dessous.
Oui, je crois qu'au Japon, il y a vraiment une pensée du devenir, alors qu'en Occident, on est plus dans la vérité de l'être. Donc ça, déjà, c'est une grande différence. Et je suis allée véritablement à Kumamoto, j'étais accompagnée par des amis japonais. Nous avons visité ce château, alors de loin, bien sûr, parce qu'il est en ruine, il est en train d'être construit. Et mon ami japonais me disait, voilà, on se pose la question, mais la question est semblable pour Notre-Dame aujourd'hui. Hein. Ouais. La question était, voilà, est-ce qu'on le reconstruit en béton ou en bois? C'est intéressant, bien sûr, oui.
Ouais. Le Tanuki vous dit, on préfère le temporaire qui, en se renouvelant, tend vers l'éternel.
Et donc le château en question, il est presque doté d'un métabolisme vivant, en fait. Ça le rend vivant. Voilà, c'est ça qui est assez beau et que je mets en scène, oui. Ouais.
Le sentiment de vie éternelle, on le retrouve. Vous l'aviez eu à Rome. Vous l'aviez dans votre enfance. Vous le dites quand vous êtes arrivé à la campagne. La première chose que vous avez regardée, c'est pas la nature, c'est l'épaisseur de ces murs de pierre, de vieilles bâtisses. Et vous voilà de nouveau en train de tourner autour de cette question de la pérennité.
Oui, l'immeuble et l'impermanence des choses également, encore un paradoxe. C'est vrai que finalement, après avoir publié La jeune femme et la mère, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi un point commun avec la légèreté, notamment avec la scène dont on parlait en début d'émission, qui est sur la dune du Pilat, où en état de dissociation, de choc post-traumatique, j'ai cru être le paysage, le vent, les éléments. Et finalement, dans La jeune femme et la mère, le personnage du peintre qui fait des haïkus, il cherche l'état qui permet de peindre un tableau. Et en fait, il cherche cet état-là où il va se dissoudre dans le paysage. Donc finalement, à quelques années d'intervalle, j'ai retrouvé un peu cette quête de dissolution, ouais, plutôt de cette quête de l'essence des choses, parce qu'il, ouais, s'agit en fait de cela, de se rapprocher de l'essence des choses.
Ouais. Alors ce personnage, hein, ce peintre en mal d'inspiration, il vous a été inspiré par un roman, Oreiller d'herbe, de Natsume Sodeki, qui raconte l'histoire d'un peintre qui se retire dans une auberge de montagne pour peindre et réfléchir sur son art et sur son rapport au monde. Je vous propose d'en écouter un extrait de ce roman lu par Dominique Blanc.
Je gravissais un sentier de montagne en me disant « À user de son intelligence, on ne risque guère d'arrondir les angles. À naviguer sur les eaux de la sensibilité, on s'expose à se laisser emporter. À imposer sa volonté, on finit par se sentir à l'étroit. Bref, il n'est pas commode de vivre sur la terre des hommes. Lorsque le mal de vivre s'accroît, l'envie vous prend de vous installer dans un endroit paisible. Ce qui débarrasse de tout ennui ce monde, où il est difficile de vivre, et projette sous vos yeux un monde de grâce, c'est la poésie. C'est la peinture, ou encore c'est la musique, et la sculpture. Pour être exact, il ne s'agit pas de projeter le monde, il suffit d'y poser son regard directement. C'est là que naît la poésie. Et c'est là que le chant s'élève. Même si l'idée n'est pas couchée par écrit, le son du cristal résonne dans le cœur. Même si la peinture n'est pas étalée sur la toile, l'éclat des couleurs se reflète dans le regard intérieur. Il suffit de contempler le monde où l'on vit et de contenir avec pureté et clarté dans l'appareil photographique de l'esprit le monde d'ici-bas, futile et chaotique.
Extrait du roman Oreiller d'herbe de Natsume Soseki, lu par Dominique Blanc. On comprend qu'il vous ait inspiré dans votre quête d'habiter le monde, votre quête de beauté.
Oui, et pourtant c'était pas évident parce que j'avais lu ce roman Oreiller d'herbe en France et j'avais pas tout compris. La trame narrative est assez spéciale. Soseki disait que c'était un roman haïku. Puis surtout, il y avait énormément de références à la poésie et à la peinture chinoise et japonaise. Bon, et j'avais beaucoup de mal à voir les décors, les paysages. Bon, donc je l'ai emporté avec moi au Japon. Et ce qui a été assez prodigieux, et c'était un hasard, quand je suis allée dans le Kyushu, c'est quand j'étais à Kumamoto, justement, avec ses amis japonais. Ses amis m'ont fait faire un pèlerinage Soseki, parce qu'il a vécu, il a enseigné à Kumamoto, Soseki. Et donc, j'ai vu les décors d'Oreiller d'herbe. Et ça, c'était absolument génial, parce que j'ai enfin compris le roman. C'est-à-dire qu'on m'a fait visiter la petite maison de thé qu'il y a de la page 6 à la page 20 du roman. Et j'ai notamment enfin compris et vu ce que voyait le personnage du peintre quand il s'asseyait dans une pièce et qu'il vous regardait le jardin et qu'il voyait la mer. Je me disais, comment est-ce qu'on peut voir un jardin, la mer, et puis il y a un étang pas loin, je comprenais rien. Et là, j'ai tout compris. Ça a été une révélation et je me suis dit, il faut que j'en fasse quelque chose. Et je me mets en scène, c'est-à-dire que je crée mon alter ego qui va rencontrer ce personnage de peintre très inspiré par Soseki.
Vous pensez que cette quête du beau, vous l'auriez eu de toute façon, elle vous aurait rattrapé s'il n'y avait pas eu cet attentat de Charlie Hebdo, Catherine Meurice?
Ça, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que j'aurais bien aimé que l'attentat n'ait pas lieu. J'aurais bien aimé que la légèreté n'existe pas. Le livre, je veux dire, je ne sais pas. Finalement, quand je regarde en arrière mes premiers livres, Le Pont des Arts, Mes Hommes de Lettres, Moderne Olympia, ça parle déjà des arts, de la peinture, de la littérature. Ça parle du beau, mais j'en parle avec moult gags, énormément de claquements de portes, de peaux de banane glissées, etc. Peut-être que j'aurais continué à en parler de cette manière. C'est vrai qu'avec ce qui s'est passé à Charlie, j'ai osé me dévoiler un peu plus. Je crois que j'ai osé prendre la poésie et la légèreté au sérieux et le beau au sérieux.
Ouais.
Et voilà, pour la première fois, j'ai vécu ce que c'était que le premier degré.
Ouais. Ah, il y a toujours cette part quand même de place à la caricature, à la grivoiserie. Je ne sais pas si c'est une pudeur ou si c'est quand on a travaillé 10 ans à Charlie Hebdo, on ne peut pas ne pas mettre quelques gags un peu potaches par-ci par-là.
Je crois que c'est un état d'esprit. Bien sûr, à Charlie, j'étais comme un poisson dans l'eau parce que c'était le cœur du métier. Non, c'est ma façon de raconter les choses. Je peux pas me prendre au sérieux. C'est impossible. J'aurais honte. Non, ça marche pas. J'aime pas les gens qui se prennent au sérieux. J'ai toujours travaillé avec des gens très drôles, comme, bah oui, par exemple, à Charlie, bien sûr, Cabu, mais aussi Bernard Maris et d'autres. Et voilà, on parlait de choses profondes et graves, toujours avec décalage, légèreté. J'aime retrouver ça chez les romanciers, chez les cinéastes. Voilà, on a besoin, je crois, de cet humour pour être très, très présent au monde, en fait, et pour essayer de le comprendre.
Merci Catherine Meurice. Votre dernier album s'intitule La jeune femme et la mère. Il est paru aux éditions d'Argo. Maxime, notre stagiaire de troisième, a adoré. Il nous l'a dit. Nous allons mettre sur la page de l'émission sur franceinter.fr les références de cette bande dessinée, mais aussi de celle dont nous avons parlé, la légèreté, les grands espaces dans cette émission. Un grand merci à vous, Catherine
Meurice. Merci beaucoup de votre invitation. Merci.
Le temps d'un bivouac replie sa tente. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast avec l'appli Radio France. Et merci pour les nombreux messages que vous nous laissez sur notre page Facebook ou sur franceinter.fr. À samedi prochain pour de nouvelles aventures.